Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting. Ce podcast est rendu possible grâce au soutien financier du groupe Boca. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté. Retour en Terre des Justes, une série en 6 épisodes, signée Julia Urbachtel. Vous écoutez le 4e épisode.
Je sors de chez Bléranda et Dardane tout ému. Cette famille a un parcours hors du commun. Du Kosovo vers la France, ils ont laissé derrière eux une vie entière. Leur famille, leur culture, leurs souvenirs. Ils ont affronté les pires épreuves, essuyé les échecs, douté. Ils ont vécu le drame que chaque parent puisse redouter, celle de la perte d'un enfant. On a partagé un moment qui m'a semblé être hors du temps. Ils m'ont livré des témoignages intimes, humains, sans fard. Je suis sur le chemin en direction de la maison de Jeanne et Louis Hertz. Pour rappel, Louis était le médecin de Bléranda. Elle était suivie de très près durant sa grossesse difficile. Ils ont été, durant 4 ans, leur famille d'accueil. Je franchis la porte d'entrée de cette grande maison, j'avance dans le couloir et je tombe sur Bléranda, Dardane et leurs 2 enfants. Eux aussi sont venus rendre visite à Jeanne.
Je te donne une photo, Lorina.
Quoi ?
Ça va. Du coup, c'est ses parents, c'est Lorina. Été, parce qu'on a fait un baptême républicain.
Ah !
Oui, un baptême républicain à la mairie.
Regardez, si elle était mignonne.
Ah, montrez-moi ça.
Un peu ta photo.
Hey. Oh, que t'es mimi là-dessus. Parce que vous avez fait un baptême républicain pour fêter cette famille de cœur dont vous me parliez.
Ah, mais on vous expliquera tout ça.
C'est ça. C'est ça. J'avais oublié de le mentionner.
Ah, mais ça,
voyez.
C'est important.
Il y a plein de choses.
Ben oui, ben bien
mais
sûr.
Mais déjà, on a touché le général.
Mais la finalité, elle est super.
Allez, on y va.
Allez.
Merci, Jeanne. Du coup, on n'a pas besoin tout de suite.
Non, j'ai la clé de Louis.
Hein. Pas de souci.
Okay.
Merci à vous, en tout cas.
Merci
bonne
beaucoup.
Journée,
à bientôt.
À bientôt, avec plaisir.
Avec plaisir.
Au revoir.
Au revoir, Lorina.
Au revoir.
Allez, on va de l'autre côté, nous.
Ah, vous avez une grande maison, hein.
Ah oui, oui. Alors, il faut quand même que je te... Allez, 10 minutes, un quart d'heure, je te fasse le profil du tour de la maison des Hertz. Avant que tu comprennes pourquoi les choses. Quand on a accueilli Bléranda et Dardane, c'était dans l'urgence. Alors, dans l'urgence, il n'y avait pas tout ça. Dans l'urgence, c'était un peu le bordel. Avant eux, j'avais déjà 2 familles. Bon, alors, Bléranda et Dardane, c'était une chambre d'enfant, ça, avant. Donc, j'en ai fait une cuisine. À côté, il y avait un divan où ils couchaient et un lit pour Lorina. Hein, et ils mangeaient sur une table basse. Ils avaient ça qui était...
Jeanne me fait visiter sa maison. On sent qu'elle est conçue pour accueillir. Il y a différentes dépendances avec des cuisines et des chambres individuelles, plusieurs petits appartements dans une grande maison. Avant Bléranda et Dardane, Jeanne m'explique qu'elle a reçu plusieurs familles d'exilés ici. Elle me raconte brièvement l'histoire de chaque pièce, chaque meuble chiné. Sa façon de raconter ses histoires m'amuse. Il faut dire que c'est une femme étonnante, environ 1m60 d'énergie. Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer son mari, Louis Hertz. Durant ma venue, il était en consultation médicale. Il a 90 ans passés et pourtant il continue d'exercer. Avant d'être à la retraite, Jeanne était infirmière. Dans leur vie privée, comme au travail, le couple a décidément dédié sa vie aux autres. Jeanne, pour commencer, est-ce que pour qu'on comprenne un peu mieux qui vous êtes, vous voulez bien me raconter votre histoire ?
Je viens du 93, Aubervilliers.
D'accord.
85% d'immigrés. Donc j'ai vécu, en fait, dans une cité de transition. Je suis issu d'une famille sous-prolétarienne. Ça veut dire que pendant la guerre, ma mère, entre guillemets, donc, était mariée à un Belge. Il est parti à la guerre. Pendant X années, 3, 4 ans, elle n'a pas eu de nouvelles. Elle rencontre un autre homme. Ma sœur, elle naît. Moi, je nais. Le Belge, il revient de la guerre. Il voit sa femme avec 2 enfants. Donc elle a divorcé. Et ensuite, mon géniteur est mort. Et elle s'est mise à boire et on a été pris par les services sociaux. On a été placés, ma sœur et moi, dans une famille d'accueil rurale. Ensuite, il y a une assistante sociale qui s'en est mêlée, qui nous a fait revenir chez ma mère jusqu'au jour où elle a eu un cancer. Et qu'il y avait un pasteur à Aubervilliers avec la commune communiste qui pointait le doigt sur les enfants qui avaient besoin de changer d'air, d'être bien nourris, d'être en sécurité pendant 2 mois l'été. Et donc ma sœur et moi, ce pasteur et ce maire à l'époque, ont décidé qu'on irait passer 3 mois ou 2 mois et demi en Ardèche. C'est comme ça que j'ai débarqué en fait en Ardèche jusqu'au jour où notre mère est morte et que ce pasteur Ehrenschmidt est devenu notre tuteur. Nous, on a eu une extrême chance d'avoir rencontré donc ce pasteur Ehrenschmidt, qui était célibataire à l'époque, qui était de la très haute bourgeoisie protestante et qui vivait comme l'abbé Pierre, si vous voulez. Hein. Ensuite, il a rencontré une femme de la très très haute bourgeoisie protestante. À partir de là, ils ont décidé de nous adopter.
Vous étiez déjà protestante ?
Pas du tout. Petit à petit, moi, j'ai été élevée dans le protestantisme social, je dis bien social, hein. Et puis j'ai commencé à aller à l'école régulièrement, à faire ce qu'il fallait faire pour avoir un métier que je n'avais pas à l'époque.
Vous êtes tournée vers les autres, bon ça se voit quand on visite votre maison. Comment est-ce qu'à un moment donné on se dit, tiens je vais ouvrir ma maison à des gens que je ne connais pas du tout ?
Ça se pose pas. Enfin, la question se pose pas. Je pense quand même qu'il y a... Alors ça, c'est très, très personnel, hein, ce que je vais vous dire. Hein. Je me suis beaucoup posé la question en voyant ce pasteur Ehrenschmidt et sa femme Courvoisier, qui venaient de la très haute bourgeoisie protestante, vivre, mais vraiment, on a vécu, avec monsieur, on a des souvenirs, sur des lits de camp, avec les clodos, etc. On n'a jamais manqué de rien, mais on mangeait les choses très naturellement. La porte était tout le temps ouverte. Il a acté sa chose, enfin sa vie, tout le temps tournée vers les autres. Alors moi, je pense que ça vient de là. Je ne pouvais pas rester dans cette condition sociale privilégiée. Moi, j'aurais été emmurée, enfermée, enfin je veux dire. Et en plus, avec maintenant toutes les communications, par la télévision, par tout ce qu'on entendait, enfin, moi, j'en étais très bouleversée. Et moi, je me disais, au fond, qu'est-ce que je fais ? On m'a tendu une main, certes, je l'ai serrée. À partir de là, je me suis dit, ben, je rends la monnaie de la pièce, quoi.
En discutant avec Bléranda et Dardane, je me rends bien compte aussi qu'il y a tout l'aspect d'accompagnement dans le quotidien aussi. Ça va au-delà du fait d'ouvrir les portes de sa maison. Comment vous percevez les choses là-dessus ?
Une fois qu'on a ouvert sa maison et qu'il y a des gens, il faut être à l'écoute. Il faut discerner. Il faut savoir où sont ses limites. C'est pas une histoire de sang. On est sur Terre, on l'a pas demandé. On est dans un coin de géographie. On l'a pas demandé. On est dans une famille, on l'a pas demandé. On est avec une couleur de peau, on l'a pas demandé. On est plus ou moins handicapé, on l'a pas demandé. Et à partir de là, on fait partie de cette planète. Et donc pour moi, il n'y a pas de barrière. Sauf que il faut que vous ayez le libre arbitre. Alors ça, c'est un peu compliqué. Hein. Parce que le choix, hein, je veux dire, j'en parle souvent avec mon dernier, il me dit, mais maman, tu déconnes ? Il me dit, alors je dis, quand on dit que tu as le choix... tu as un chemin où tu n'as pas de cailloux, c'est droit. Tu as un chemin où il y a des cailloux, tu vas te casser la gueule. Alors, selon le choix que tu prends le chemin qui a le caillou, le chemin qui a... Et il me dit oui, et après, et ton libre arbitre, c'est pas un choix, ça aussi ? Je dis, mais ça, c'est la conscience de chaque être humain. Et quand on est tous singuliers, on n'a pas la même façon de voir les choses.
Depuis le début de mes recherches, j'ai discuté avec Jacqueline, ma grand-tante, et Patricia, ma grand-mère. Elles m'ont raconté à quel point, entre 1939 et 1945, les Saint-Agrévois avaient été d'un immense soutien. J'ai ensuite rencontré Bléranda et Dardane, qui m'ont décrit la générosité sans limite des gens d'ici. Maintenant, je rencontre Jeanne, pour qui la solidarité sonne comme une évidence. J'ai presque l'impression qu'on parle d'un paradis terrestre. Est-ce qu'ici, plus qu'ailleurs, les gens se mobilisent pour aider l'autre ? Cette initiative, l'arrivée du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, est-elle vue d'un très bon œil par tous ?
Me renseignant un peu sur Saint-Agrève, le Chambon-sur-Lignon pas loin, le titre de juste, ce qu'ils ont fait pour les Juifs, c'était le cas pour ma famille. Qu'est-ce qui se passe en fait dans ce coin ? Pourquoi ici ? Pourquoi Saint-Agrève ? Pourquoi le Chambon-sur-Lignon ? Et pourquoi pas à Troutrou-les-Plumettes en fait ?
Et pourquoi ça n'existe pas à Troutrou-les-Plumettes ? Est-ce que vous êtes allé voir ailleurs, dans d'autres départements ?
Le titre de juste, il n'a pas été attribué à d'autres endroits, d'autres régions de France.
C'est le mot qui vous arrête ? L'acte, il est le même.
L'acte, il est le même, oui, vous avez raison.
Donc, moi, je ne me considère pas faire partie de ce mot juste. Absolument pas. Moi, j'ai appris que l'ancienne baraque, là, en fait, il y avait une dame qui accueillait des gosses et personne ne le savait. Là aussi, il faut faire très attention, je trouve. On n'a pas demandé à venir au monde à l'endroit où on est, dans la situation où on est. Et si vous avez autour de vous des gens qui sont dans un trou, quoi, et que vous êtes à côté, vous passez, vous la laissez dans le trou, ou alors vous lui tendez la main. Et le moyen, je veux dire, il est à la portée de tous. Et après, on se met ensemble pour voir quelles sont les personnes qui ont plus de privilèges pour intervenir à tel ou tel niveau.
Pour aller dans la continuité de ce que vous dites, Saint-Agrève, petite ville, et pourtant pas mal d'actions. En deux jours, je rencontre pas mal de personnes qui me disent « Ah ben oui, telle personne a accueilli... » Et en fait, ce sont des anonymes qui font pas ça pour la gloire, qui font ça pour une question de solidarité. Pourquoi est-ce que Saint-Agrève, en tout cas ici, parce qu'on parle d'ici, le fait ?
C'est ancestral à Saint-Agrève. Et je pense que quand des gens faisaient une action pour aider quelqu'un ou dans une urgence, il fallait que ça reste dans la famille. Mais il y a des coutumes, il y a des choses très ancrées dans les familles dont on ne parle pas. Donc je pense qu'il y a des gens qui s'entraident ici, mais ça ne se sait pas ou ça ne veut pas se savoir. Et puis il y a ce cadavre qui est arrivé aussi. Alors là, c'est très controversé à Saint-Agrève, très, très. Et je suis très controversée, je le sais. Et une de mes amies d'ici, elle n'a jamais compris que je laisse ma porte ouverte. Pour elle, on pénètre, je veux dire, dans mon intimité. Oui, mais tu te rends compte, tu partages comme ça, sans connaître les gens. Et puis la peur, la trouille de l'autre, qu'on ne connaît pas. Et puis vraiment d'autres pays, d'autres manières de vivre, je veux dire. Mais ça vaut la peine de penser au fond qu'on n'est que de passage sur Terre. Mais remplir sa vie avec ce partage des autres, pour moi, c'est la valeur fondamentale.
Ce partage que Jeanne décrit lui a permis de tisser des liens indéfectibles. Aujourd'hui, Bléranda, Dardane et leurs deux enfants font partie intégrante de sa famille, cette famille de cœur. En 4 ans de cohabitation, on en a du temps pour partager des choses. Quand Jeanne se remémore sa première rencontre avec le couple, ses yeux très noirs se remplissent d'émotions. J'espère que vous ressentirez les mêmes frissons que ceux qui m'ont traversée.
Je l'ai connu, c'était un gamin d'Ardane. Maintenant, c'est un homme. En 4 ans de temps, ici, je l'ai vu se développer. Il ne parlait pas un mot de français. Je lui donnais, entre guillemets, des cours sur les bouquins de Tintin, etc., pour se marrer, pour que ce soit un peu drôle. Et maintenant qu'il travaille dur, et sa femme très intelligente. Et ils vous ont dit comment ils ont eu leur papier ?
Non.
Oh non, mais ça, gardez-le. C'est trop beau, ça. J'ai un appartement au Puy. Et je dis à Dardane, tu vas venir m'aider, Dardane, à déménager des meubles. On se fait arrêter, tous les deux. Il était OQTF, obligé de quitter le territoire français. Il allait signer toutes les semaines à la préfecture, et on se fait arrêter. Putain, j'avais oublié mes papiers. Et lui, il n'avait pas de papiers, il était OQTF. Alors, je lui dis, la voiture, elle est à moi. Alors, le flic, il me dit, oui, mais et ce monsieur ? Alors, je lui dis, il est chez moi, je suis sa répondante. Je suis sa répondante et j'avais le papier. Comme quoi, il était domicilié chez moi, qu'il n'était pas sans papier dehors. Alors, il me dit, je téléphone à la préfecture. Je téléphone à la préfecture devant nous. Bon, monsieur, vous descendez et au commissariat. Oh ! J'étais là et j'ai dit, eh ben, et moi, qu'est-ce que je fais là-dedans ? J'avais pas de papier, ils m'ont laissé ma voiture et puis ils l'ont embarqué. J'étais dans tous mes états. Et puis, je vais à la gendarmerie. On me dit, ben, il est. On attend. Il est là pour 24 heures. Alors je dis, attendez, mais je suis sa répondante, je lui dis. Il me dit, oui, mais la préfecture de d'Ardèche nous a bien dit qu'effectivement, il était au QTF. Je dis, oui, mais à partir du moment où il était avec moi, je lui dis, hein, je suis sa répondante. Il me dit, bon, on vous préviendra. Donc, on m'appelle, on me dit, bon, ben, vous pouvez venir le rechercher. Donc, Dardane, il n'avait pas mangé de la journée. Deuxième au QTF, là, je me sentais coupable, je me sentais responsable. Donc, j'écoute Dardane, t'inquiète pas. J'ai dit, je vais écrire au préfet, c'est pas possible. Et puis, c'est là que je fais cette grande lettre. Je me suis dit, tant pis, là, je vais écrire le livre au préfet. Et j'ai décrit Dardane dans le jardin, avec mon mari qui est cassé de partout, comment il intervenait, comment il prévenait les choses, comment Bléranda, elle était aussi quand elle nous faisait des pommes de terre alors qu'ils n'avaient pas un rond, etc. Comment la gamine, elle était aussi dans le poulailler, etc. J'ai dit, tant pis. tant pis, j'écris le quotidien. Parce que quand on fait une demande, au préfet je parle, hein, on a des lignes de témoignages, on témoigne. Alors, telle personne témoigne que l'enfant va bien à l'école. Telle personne dit, ah oui, c'est une personne sérieuse, on n'a jamais eu de problème, etc. Et je me suis dit, mais ils en ont des tas de témoignages comme ça, dans tous les dossiers, c'est comme ça. Plus on a de témoignages, plus on dit on est intégré. Et là, j'ai fait vraiment un truc où je me suis creusé la cervelle. J'ai mis en gros témoignage d'une proximité de 4 ans. Du début, quand j'avais vu Dardane, quand il est arrivé, et j'explique les choses. Et donc Dardane qui va signer, il n'en dormait pas, hein. Moi j'en dormais pas. Hein. Et puis j'entends à un moment donné, il pleure dans le couloir. Non mais attendez, il dit qu'est-ce qui vous arrive ? Jeanne, on a nos papiers. J'y attends, qu'est-ce que tu me racontes là ? On a nos papiers. J'ai Dardane, il me dit oui Jeanne, je suis allée signer, on m'a dit, mais pourquoi vous venez signer ? Il me dit, mais non, vous avez vos papiers. Alors Dardane, il dit, mais non. Elle dit, bah tenez, regardez. Elle met son ordinateur en route, et c'était un week-end où ils n'étaient pas de garde ou je sais pas quoi, où il n'y avait personne qui avait pu le communiquer. Et ils ont eu leurs papiers comme ça. Ils étaient en pleurs. Là, c'est pas une belle histoire, ça ?
C'est une histoire magnifique.
Pour comprendre l'histoire que Bléranda et Dardane ont vécue et l'accueil dont ils ont bénéficié au décès de leur enfant, il me manque une dernière pièce du puzzle. Pour cela, direction la maison d'Evelyne et Bernard. Ce couple, interviewé dans l'émission d'Europe 1, dont vous avez entendu un extrait dans le premier épisode, a proposé sans hésiter une place au sein de leur concession familiale. C'est là que repose l'enfant pour toujours. Au prochain épisode, nous irons à leur rencontre pour tenter de comprendre ce geste altruiste, ce cadeau d'humain à humain, de femme à femme, de mère à mère.
Venez d'écouter le quatrième épisode de Retour en Terre des Justes, une série signée Julia Urbachtel pour Podcasting. Réalisation Olivier Duval, production Agathe Ternier, Gabriel Taïeb et Alia Trabelsi, illustration Aurélie Carmouze. Si vous aimez nos productions et souhaitez nous soutenir, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et parlez-en autour de vous. Merci et à bientôt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.